Go, go, la revue presse JB.
Bonjour, moi c'est Bruno Roca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeux vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti! Hello chers amis, très heureux de vous retrouver. Et oui, après presque 15 jours d'absence, hein, best of la semaine dernière, comme je vous le disais sur les réseaux sociaux et sur la page Tipeee et la page Patreon, voilà, un souci vraiment ne m'a pas permis de réaliser l'émission. La semaine dernière, vous avez eu un chouette petit best of malgré tout, avec le sujet sur la science et le jeu vidéo, le portrait du secteur du JV en Pologne, la lutte contre l'homophobie dans le milieu du JV. Et quand les manifs s'invitent sur les serveurs, des sujets que j'avais envie de remettre en lumière, donc j'espère que certaines et certains d'entre vous les ont découverts à ce moment-là. Et pour cette semaine, un bien beau programme comme d'habitude, puisqu'après la brochette de news, on va parler déjà du jeu vidéo qui pourrait être éventuellement un remède au décrochage scolaire et à l'absentéisme, on va en parler. Le jeu de la semaine, c'est Darksiders Genesis, vous verrez, c'est fort contrasté. On va parler aussi de Da'alo, qui nous place sur les traces des voleurs de Zébu à Madagascar, les rubriques habituelles, le sondage, etc. Bref, il y a de quoi s'en mettre plein les esgourdes, et donc ce que je vous propose, sans plus point tarder, ce n'est pas français mais c'est pas grave, je continue, je suis sur ma lancée, on attaque tout de suite, donc avec la brochette de news. Allez, c'est parti! On va commencer cette brochette de news avec peut-être la meilleure nouvelle de la semaine. Si vous me suivez un petit peu sur Twitter, vous avez vu que j'ai distribué un petit peu mes jeux préférés de l'année. Et mon jeu de l'année, comme on dit, le GOTY, hein, pour moi, c'est Oplectel. Oplectel d'Azobo Studio, sorti chez Focus. C'est vraiment le jeu que j'ai préféré faire cette année. Et bonne nouvelle donc, parce que si on en croit jeuxvideo.com, Oplectel Innocence 2 serait tout bonnement en développement chez Azobo Studio. Alors JV.com qui lui rapporte directement une info, à prendre avec les guillemets d'usage, de Xbox Squad, donc qui affirme qu'une suite est actuellement en développement. Une information dénichée, soi-disant, auprès d'un dirigeant de l'éditeur Focus. Le site Xbox Squad indique avoir contacté l'éditeur, dont le directeur des opérations aurait confirmé que le développement a commencé et que, je cite, « le plan de communication actuel prévoyait une annonce en 2020 pour une sortie courant 2022 ». JV.com rapporte également que le site anglo-saxon Eurogamer a contacté Focus, qui n'a ni confirmé ni démenti l'information. Donc, si vous voulez mon avis, ça sent bon. Et vraiment, si vous n'avez pas encore jeté votre dévolu sur Eplectel, je vous invite vivement à le faire. Voilà. Du côté de chez Sony, on a annoncé la date du prochain State of Play, le Nintendo Direct en version Sony. Et oui, ce sera diffusé mardi 10 décembre, donc c'est-à-dire demain à 15h, heure de Paris. Au programme, nous dit Gameblog, de cette émission de plus de 20 minutes, le constructeur japonais promet des news, des mises à jour et des annonces de jeux. Bon, au moment où cette news a été écrite sur Gameblog, on ne connaît pas trop l'identité des titres en question, mais il y a fort à parier que Resident Evil 3, le remake de Resident Evil 3, vous savez, qui a fuité un petit peu en avance et qui semble être la surprise de ce State of Play, pardon. Difficile à dire qu'on est un petit peu fatigué, State of Play, j'irai voir mon orthophoniste après. Donc, Hero 3 Remake sera de la partie, très certainement, et Gameblog aussi compte avoir des news de Ghost of Tsushima. Et oui, c'est vrai qu'il faisait vachement envie celui-là aussi, on n'a pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Bon, des annonces surprises, pas mal de petites choses, on en reparle de toute façon la semaine prochaine, vu que, je le rappelle, à heure de Paris, ça tombe demain, donc mardi, à 15h. J'aimerais vous reparler du Marathon Cast. Oui, Marathon Cast, vous le savez, c'était au mois de novembre, hein, un week-end pour aider l'association Espoir Autisme 94. Sachez que vous pouvez retrouver sur le site marathoncast.fr toutes les vidéos des podcasts, hein, qui a eu lieu lors de cet événement. Alors vraiment, vous allez retrouver tous vos podcasts préférés, hein, Super Gamerside, Level Max, MO5, B-Side Games, Décennies, Bras Gros Points, VHS et Canapé, Mes Disques à Moi, La Case Rétro. Il y en a énormément, backlog, il y en a énormément, et je me suis invité dans pas mal de ces podcasts, donc vous pourrez voir votre serviteur, mais aussi et surtout tous ces super podcasteurs, donc en vidéo. Vous pourrez voir aussi en vidéo les segments qui parlent de l'autisme, hein, segments que j'ai mis en audio dans le flux de l'émission également, comme certains aussi de mes camarades. L'occasion aussi de dire que vous pouvez toujours aider donc cette association Espoir Autisme 94, donc qui aide à accueillir ses enfants dans une école, hein. C'est la première école qui a été montée en France pour accueillir les autistes, et donc qui est menacée de fermeture faute de moyens. Donc vous pouvez toujours faire des dons à cette adresse, hein, don.marathoncast.fr, don.marathoncast.fr, don au pluriel, et vous avez aussi le lien pour faire un don sur le site marathoncast.fr. Bien sûr, je compte sur vous pour déjà regarder ces vidéos, parce que vous allez passer des super bons moments avec vos podcasteurs favoris, et à continuer à donner, à partager, c'est très important, voilà, d'aider cette association et Tina, sa super présidente. 6 nouveaux jeux NES et Super NES déboulent sur le Nintendo Switch Online. C'est l'excellent site romgame.fr qui nous parle de cela. Et oui, moi j'attendais ça depuis vraiment, voilà, avec impatience, puisque vous le savez, les jeux sur le Nintendo Switch Online, ça tombe plus forcément une date fixe, hein, c'est au bon vouloir de Nintendo. C'est le 12 décembre prochain, donc jeudi, hein, si je ne fais erreur, que ça va tomber. Sur Super NES, vous allez retrouver Star Fox 2, hein, le Star Fox inédit, qui était l'un des arguments, hein, pour acheter une Super Nintendo Mini. Vous allez également retrouver Super Punch-Out, Breath of Fire 2, RPG de Capcom, Kirby Superstar, avec 8 jeux Kirby en 1. Vous le connaissez très certainement comme moi, mais c'est toujours un bonheur de le retrouver. Axel, mon fils, sera très content parce que c'est un gros fan de Kirby. Sur NES, vous allez trouver 2 jeux moins connus, Crystalis et Journey to Silius. L'occasion, nous dit RomGame, hein, de découvrir l'histoire épique du premier, un action RPG situé dans un monde où la civilisation est en ruine, et la rapidité, pardon, de l'autre, un run and gun plein de robots belliqueux. Ça m'intéresse beaucoup, surtout ce Journey to Silius, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, et celui-là me fait vraiment de l'œil. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est bonheur, hein. Les débuts difficiles de Google Stadia, oui, c'est CBL sur Factor News qui nous en parle. Le bilan est pas terrible, puisque je vous renvoie au sujet que j'avais fait donc il y a 15 jours, un gros sujet sur Google Stadia où je m'étais appuyé sur vraiment l'excellent dossier de Nodus sur Gamecult. À part les promesses qui n'ont pas été tenues, hein, le coop local, la possibilité de rejoindre un YouTuber en cours de jeu, les succès, le partage d'un compte entre membres de la même famille, tout ça a été repoussé en 2020, nous dit CBL. C'est surtout qu'il n'y a pas grand monde, puisque pour jouer à Stadia, il faut forcément installer, donc nous rappelle-t-on, hein, l'appli mobile pour iOS et Android, et selon les estimations, une semaine après le lancement de Google Stadia, cette application aurait été téléchargée seulement 175 000 fois, ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors certains commencent à dire que Google, comme il a l'habitude de le faire, hein, va couper le service comme ça de but en blanc au bout d'un moment. Bon, je pense qu'ils vont quand même essayer de pousser le truc encore très longtemps, mais c'est vrai qu'au niveau, en termes de communication, en termes de lancement, c'est quand même, on n'est pas loin de la catastrophe, hein, pour moi, c'est mon point de vue. Donc on va attendre de voir ce que ça va donner, mais bon, payer un abonnement pour acheter ces jeux derrière avec plein de services qui ne fonctionnent pas encore, et une techno qui dépend énormément de votre connexion internet, tout ça fait que les offres quand même concurrentielles sont beaucoup plus attrayantes, hein, il faut le reconnaître. On attendra de voir comment ça va se passer par la suite. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, de la suite des aventures de Google Stadia. Pour les fêtes, Nintendo lance un bundle Switch avec Mario Kart 8 Deluxe. C'est ActuGaming.net qui nous parle de ça. Mario Kart 8 Deluxe, hein, tout simplement pour moi le meilleur Mario Kart de tous les temps. Oui, je le dis, je le pense et je l'assume. Avec ce bundle, nous dit ActuGaming.net, Nintendo propose une alternative intéressante pour l'achat d'une console. Il faut dire donc que ce pack regroupe la Switch ainsi qu'un code de téléchargement pour Mario Kart 8 Deluxe. Donc ça coûtera 299,99€, donc vous n'aurez pas la boîte, hein. Le jeu est à télécharger, mais en tout cas ça coûte 299,99€, c'est une offre limitée. Attention, grâce à ActuGaming.net, on apprend quand même que vous avez dedans le nouveau modèle de Switch sorti en 2019 qui propose une autonomie améliorée et c'est l'édition Néon avec Joy-Con rouge et bleu. En espérant que ça ne déconne pas au niveau du Joy-Con, n'est-ce pas? Vous pourrez retrouver ce pack donc via Amazon, Cultura, Micromania. À vous de chercher tout cela si vous êtes intéressé, mais c'est l'occasion effectivement de passer le pas, d'acheter une Switch avec un jeu formidable avec. Croisez juste les doigts pour les Joy-Con. Si vous avez un budget conséquent, prévoyez peut-être même quelques petites manettes. Je fais une petite aparté. Je tenais à remercier Lina Nounette, une des tipeuses de l'émission, et que vous connaissez si vous suivez l'émission. C'est l'un des piliers de la grande revue de presse JV qu'elle a présenté d'ailleurs de nombreuses fois. Elle m'a conseillé le Split Pad Pro qui avait été sorti chez Ori. Ori, un constructeur fabuleux d'accessoires pour Nintendo. Vraiment, je suis fidèle à cette marque depuis la période GameCube au moins. Donc Ori avait sorti deux Joy-Con à l'occasion, vous savez, de Daemon X Machina. Le jeu de mecha, et donc ces deux Joy-Con qui se clipsent donc à la Switch, mais qui sont vraiment massifs. Vous avez vraiment l'impression de prendre à droite et à gauche, de prendre une vraie manette en main. Alors ça vous agrandit vachement la Switch, elle devient vachement moins transportable. Moi je prends pas les transports, j'y joue qu'à la maison, et vous savez, ma haine du Joy-Con Drift, voyez-vous, et là je l'ai acheté au moment où j'enregistre l'émission, ça fait une petite semaine, et ça marche très très bien. Axel et moi, on adore cette manette, il y a une vraie prise en main, c'est beaucoup plus agréable que les Joy-Con pour moi. Alors ça agrandit un peu la console, mais non, on s'en fout, on y joue qu'à la maison. Donc je l'ai récupéré via Amazon, je crois que ça a dû me coûter une quarantaine d'euros, parce que les prix sont régulièrement cassés. Donc c'est le Split Pad Pro de chez Ori pour Switch. Alors je vous invite à aller voir ça. Donc si vous avez un petit peu de sous de côté, si vous voulez acquérir une Switch, mettez-vous un petit pad comme ça, enfin des Joy-Con comme ça de côté, ça ne mange pas de pain. On va finir avec Quantic Dream. J'en ai pas mal parlé depuis le début de l'émission. Quantic Dream, la suite des affaires, donc avec un nouveau volet. Enfin, plutôt une première conclusion, pourrait-on dire, même si c'est pas terminé. Mais en tout cas, GameCult, Jarod plus précisément, donc, nous informe que Quantic Dream a été condamné par les prud'hommes dans l'affaire des photomontages. Oui, le studio Quantic Dream a été condamné donc à une amende de 5000 euros, nous dit GameCult, par les prud'hommes. L'affaire des photomontages douteux, on en avait pas mal parlé dans l'émission, que la direction du studio est accusé d'avoir laissé se propager. C'est Mediapart qui rapporte donc cette décision dans son édition du 29 novembre. Rappelez-vous, visé par des centaines de ces images, le responsable du service informatique du studio avait décidé de quitter son poste et donc de porter plainte contre le studio, donc Quantic Dream. Donc, Quantic Dream a été condamné à une amende de 5000 euros, et GameCult nous dit que dans la foulée de l'article de Mediapart, qui donc faisait état de cette décision, Quantic Dream a publié un communiqué dans lequel le studio se félicite du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes, qui n'a accordé qu'un dédommagement total de 7000 euros aux plaignants. En effet, nous dit GameCult, l'ancien employé de Quantic Dream demandait en fait plus de 114 000 euros de dommages et intérêts avec la requalification de sa démission en licenciement dans l'affaire des photomontages, et a donc été débouté de l'essentiel de ses demandes. Quantic Dream ne fera pas appel de l'amende dont il a écopé au titre de l'obligation de sécurité dont l'employeur doit faire preuve avec ses salariés. Le communiqué conclut avec cette citation, le communiqué de Quantic Dream, je précise, je cite, « Il nous semblait important de diffuser les informations exactes afin d'éviter toute désinformation due à une mauvaise interprétation des faits. » Mais ce n'est pas fini. GameCult nous rappelle que l'affaire des photomontages avait été mise en lumière en janvier 2018 dans le cadre d'enquêtes publiées par Canard PC, Mediapart et Le Monde. Une enquête qui s'intéressait plus globalement aux conditions de travail dans le studio Quantic Dream. Ces articles avaient valu à Mediapart et Le Monde d'être attaqués en justice par Quantic Dream pour diffamation. L'audience de ce procès a eu lieu le 5 décembre dernier. Mais au moment où j'enregistre cette émission, j'ai pas encore toutes les infos. J'ai pas réussi à récolter toutes les infos nécessaires pour vous en parler. Donc, j'en parlerai très certainement la semaine prochaine. Sachant qu'il y a aussi le mouvement de grève en ce moment. Donc, à mon avis, l'audience a très certainement été repoussée. Je vous tiendrai au courant de tout cela. Mais malgré cette première décision de justice, ce n'est pas du tout terminé, loin de là. Et comptez donc sur moi pour vous donner les suites de cette affaire. Le sondage, alors non pas de la semaine dernière, mais d'il y a 15 jours, portait sur Shenmue 3. Et donc je vous posais cette question ô combien brûlante, aïe, ça brûle. Pensez-vous que les critiques sont trop clémentes avec Shenmue 3? Vous avez été 83 à répondre. Alors c'est pas encore assez, hein. Comme je le dis, il faut se mobiliser, il faut y aller, il faut voter en masse. Vous avez été 10% à me dire oui, carrément, carrément, les critiques sont trop clémentes envers Shenmue 3. 31%. Un petit peu, oui, donc vous trouvez ces critiques un petit peu clémentes, un peu trop gentilles avec le dernier jeu de Yu Suzuki. Pas du tout, 33%, et c'est la majorité, 33% à penser que les critiques ont été justes, et 27% à me dire « c'est toi, Clément ». Voilà, c'était pour la petite vanne, et vous avez comme été 27% à répondre sur cette petite vanne. Donc vous voyez, je tends le bâton pour me faire battre, et c'est le jeu. Bon, globalement, je suis d'accord sur les critiques qui sont pas forcément très très clémentes envers Shenmue 3. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais n'ayant pas fait le jeu, je ne vais pas m'avancer plus loin que cela. Je fais une dédicace à MachinTruc76, fan de Shenmue et de Sega devant l'éternel, hein, un des contributeurs de l'émission, qui a l'air de prendre son pied. Alors peut-être que tu l'as terminé au moment où j'enregistre, MachinTruc76, on en reparlera, bien évidemment. Mais l'heure est au nouveau sondage. Oui, les amis, l'heure est au nouveau sondage. Et ce sondage concerne les awards JV que décernent chaque année les rédactions. Ils s'en donnent à cœur joie et donc je vous pose une question sur ce sujet-là. Donc pour aller voir ça, hop, c'est sur Twitter que ça se passe. Hâte, revue de presse JV, tout colle et toi-même tu sais. Répondez, partagez, enjoyez comme disent les jeunes. Et puis on en reparle la semaine prochaine bien évidemment. Le jeu vidéo, un remède au décrochage scolaire et à l'absentéisme? Point d'interrogation. Voilà un papier que j'ai trouvé sur lci.fr, parce que pourquoi pas. Un papier donc signé Melinda Davant-Soulas, qui nous dit qu'avec le lancement, il y a près de 5 ans, hein, du plan école numérique, la France a mis les pieds dans la modernité scolaire. C'est pas partout cette modernité scolaire, hein, on va pas se mentir. C'est quand même intéressant de relayer ce qui se passe dans certains établissements. On nous dit donc que la technologie s'invite désormais dans les classes et dans les enseignements et que le jeu vidéo devient aussi un soutien aux apprentissages et un argument pour rattraper certains élèves décrocheurs. Alors, le papier commence en posant cette question. Les petits Français ont-ils la même chance dans leur apprentissage? Vous connaissez la réponse à l'avance, n'est-ce pas? Ce n'est pas certain, hein. Donc nous dit le papier, très justement, à en croire la dernière enquête PISA, hein, P-I-S-A, publiée en début de semaine, donc dernière, hein, et qui évalue tous les 3 ans les connaissances des élèves. Les liens entre statut socio-économique et performance fait réfléchir entre les élèves issus donc de milieux favorisés et leurs camarades appartenant à des classes défavorisées. L'écart est nettement supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE, 107 points contre 89. Hélas, pour certains élèves, selon la zone où ils vivent, selon les établissements, beaucoup moins de moyens sont mis à leur disposition. Et fatalement, cela nourrit également un grand sentiment d'injustice, à juste titre. Mais ceci est encore un autre débat. En tout cas, on nous dit que décrochage, absentéisme, simple manque d'implication, les explications sont multiples. Donc on nous dit que depuis 2015, hein, l'éducation nationale tente d'aller piocher du côté de ce qui peut motiver les élèves qui, malgré des conditions difficiles d'apprentissage, que ce soit du côté des élèves, hein, ou du côté des enseignants, que je salue, je sais qu'il y en a certains qui m'écoutent, et force à vous. Énorme respect pour votre profession. Comment parfois remotiver donc les élèves qui ont donc parfois du mal à raccrocher les wagons? Ce sont les supports numériques. Hein. On nous dit que si les ordinateurs, tablettes et autres cours d'apprentissage du code informatique sont devenus monnaie courante dans les classes, les enseignants commencent aussi à moderniser leur enseignement, hein, tout simplement, en prenant appui sur ce que les enfants et les adolescents aiment par-dessus tout, le jeu vidéo. J'ai fait une parenthèse, mais si vous êtes parent concerné par ce papier, vous vous reconnaissez, ou si vous êtes enseignant, j'aimerais bien avoir votre opinion, puisque moi, vous le savez, mon petit champion, Axel, lui est en CM1, et l'informatique, c'est une journée par semaine et encore, pas tout le temps, où il y a une sorte d'initiation voilà, l'informatique, sachant qu'à la maison, il fait beaucoup plus que ce qui est proposé à l'école. Donc je pense que selon les secteurs, selon les écoles, selon les décisions qui sont prises, selon les budgets, bref, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte, on peut passer de tout l'un tout l'autre. Donc j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, puisque on va pas prendre comme parole d'évangile ce papier sur LCI, même si, je le répète, il est intéressant quand même d'en parler. Et moi, j'ai une vision assez restreinte, puisque limitée à la seule école où j'amène mon fils. Donc j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, vos témoignages. N'hésitez pas sur le compte Twitter, à trop vite presse, j'y vais tout coller, sur Facebook, sur Discord. Ça peut être une discussion très intéressante. C'est le nouveau jalon de la culture populaire, il est là, les enfants y sont confrontés et sont séduits. C'est notre mission de parler avec eux de ces images, explique William Bou, professeur d'histoire-géographie dans le Puy-de-Dôme et chargé de missions numériques dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il utilise donc le jeu vidéo en classe depuis près de 5 ans. Il nous dit, mais pas plus de 2 à 3 fois par an. Cela doit avant tout être un support bien utilisé pour que cela marche. Donc selon lui, le jeu vidéo peut trouver une résonance dans l'enseignement. Il nous dit, je cite, « On a beaucoup à apprendre du langage du jeu vidéo et de sa manière de penser, car on cherche la même chose, que l'élève continue à progresser en n'étant ni trop en difficulté, ni en trouvant ça trop facile. Il y a des mécaniques didactiques d'apprentissage identiques, le tutoriel de démarrage d'un jeu qui permet de l'appréhender et d'en acquérir les connaissances pour mieux s'en emparer, n'est pas loin d'être le rôle d'un professeur. » J'ai fait une parenthèse, vous savez, je suis game designer depuis maintenant presque 2 ans, jeune game designer de 43 ans, voilà. La phase de tutoriel, c'est impressionnant, toutes les notions que cela demande, le fameux didacticiel, c'est vraiment une méthode vraiment éducative, quoi. Voilà. Quelle que soit la tranche d'âge auquel se destine le jeu, c'est une démarche totalement éducative. Ça, c'est intéressant de faire ce parallèle-là. Bref, je continue. Le papier se pose la question, à savoir si le jeu vidéo est-il assez solide dans ses connaissances pour être un sujet d'étude. Alors, William Bou, alors, comment s'appelle la journaliste déjà, Melinda Davant-Soulas. Alors, c'est William Bou en début de papier, et après, c'est William Brou. Brou ou Bou, peu ou prou, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas trop. Donc, William Brou gère une chaîne YouTube qui s'appelle Histoire en jeu. D'ailleurs, en temps réel, je vais aller sur cette chaîne YouTube. Ça m'intéresse d'ailleurs, je m'abonne direct. Oui, c'est William Brou, donc j'étais dans la description de la chaîne, donc c'est William Brou, donc je vais pouvoir à nouveau citer cet enseignant sans écorcher son nom. Donc, il a une chaîne YouTube, effectivement, Histoire en jeu, et donc William Brou a choisi de faire marcher, nous dit le papier, l'esprit critique de ses élèves en leur montrant des extraits de jeux comme Battlefield 1, qui traite, vous le savez, de la Première Guerre mondiale, autant que pour la qualité de la reconstitution historique que pour rendre capable de juger ce qui ne va pas. Et donc l'article nous dit que le jeu vidéo peut aussi être un support à part entière, par exemple dans le Lot et Garonne, depuis le début de l'année, depuis début 2019, des élèves ont été impliqués dans la conception d'un jeu en partenariat avec l'association québécoise Fusion Jeunesse. Projet très intéressant, où accompagné d'une équipe de professeurs, d'un coordonnateur de l'association et d'un professionnel du secteur, Ubisoft Bordeaux a été le premier partenaire, les élèves ont pu élaborer un projet de A à Z intervenant successivement à chaque étape de la conception. Musique, graphisme, jeu, programmation, commercialisation. Marie-Cécile André, responsable du projet au sein de l'association et ancienne chef d'établissement, nous dit « Ils touchent, les élèves, ainsi à toutes les disciplines scolaires sans vraiment le réaliser. » Il me semble qu'on en avait parlé il y a quelques mois de ça dans la revue de Presse JV. Bref, on nous dit que c'est aussi au niveau comportemental que l'expérience a été bénéfique. Marie-Cécile André nous dit « Cela a remotivé des élèves qui étaient en difficulté, qui se sont sentis plus impliqués. L'investissement accru des élèves est l'un des principaux retours d'expérience que nous avons eu. » Leur envie de participer davantage, de collaborer et de construire également ensemble. William Brou, de son côté, donc, lui, a constaté que cela permettait de raccrocher des élèves décrocheurs, nous dit-il, qui sont plus sensibles à la ludification que des élèves scolaires qui n'imaginent pas qu'on puisse travailler des compétences en les manipulant à travers un loisir. Marie-Cécile André nous dit « On a remarqué que l'absentéisme baissait dans les classes concernées par le projet, les punitions et l'indiscipline aussi. » William Brou note de son côté, je cite, « Sur ce type de projet, les élèves soulignent souvent le calme que cela apporte. Les impliquer 15-20 minutes permet de les faire se concentrer et de calmer les esprits. Pas besoin, d'en faire des heures et des heures. Il faut surtout que l'utilisation du jeu vidéo se fasse à bon escient par de la manipulation ou comme support documentaire. » Bon, tout ceci est quand même très, très positif, hein, je sais pas ce que vous en pensez. William Brew poursuit, on peut tout apprendre par le jeu et choper des compétences insoupçonnées. J'ai vu des élèves qui maîtrisent des jeux de gestion dans lesquels ils devaient placer de l'argent à la banque afin d'économiser pour progresser. Dans la vraie vie, ils étaient incapables de saisir ces notions d'économie alors qu'ils les appliquaient sans problème dans l'univers du jeu. Le papy ensuite nous parle de Life is Strange, hein, donc qui s'intéresse à la vie d'adolescent. D'ailleurs, la saison 2 vient de se terminer. Il y a un retour critique assez dithyrambique, hein, elle vient de se boucler il y a quelques jours. Bref, beaucoup de thématiques dans Life is Strange, hein, suicide, harcèlement scolaire, recherche de soi, etc. Et donc, bah, ça a fait l'objet d'un cours de français. C'est Jean-Luc Cano, un co-créateur donc, du jeu hein, chez Dotnode, qui nous dit « Un professeur a décidé de traiter les 5 épisodes comme une œuvre complète et l'a fait étudier à ses élèves. Il a ainsi pu les faire réagir autour du sujet qui les concernait. » Donc il y a beaucoup de choses dans ce papier très intéressantes. Je vous mets le lien dans la description de l'émission comme d'habitude. Hein. Il y a encore pas mal de jeux qui sont passés en revue. On nous parle bien sûr d'Assassin's Creed avec son Discovery Tour. On parle aussi de cet apprentissage du code via le jeu des lapins crétins. Il y a beaucoup de choses à dire. On nous dit aussi que l'éducation nationale se montre donc extrêmement favorable à toutes ces opérations puisque créée en 2014, la direction du numérique pour l'éducation, donc la DNE, veut faire entrer l'école dans l'ère du numérique et s'est même doté d'un portail nommé EduSchool pour apprendre par le jeu. Donc le jeu vidéo est là et enfin on lui reconnaît aussi toutes ces vertus-là. Ça met du temps mais ça avance bien sûr. Donc tout ceci va dans le bon sens. C'est vraiment très intéressant. Je vous invite à lire ce papier. Hein, qui là, je vous ai à peu près donné les infos de, je pense, à peu près de la moitié du papier. Toujours des exemples, des témoignages très intéressants. C'est sur le site de LCI. Hein. Vous tapez sur Google LCI, le jeu vidéo remède au décrochage scolaire et à l'absentéisme, point d'interrogation. Et puis, comme je vous l'ai dit, le lien, de toute façon, est dans la description de cette émission. Et je pense qu'on peut raisonnablement passer à la suite. Vous aimez la revue de presse JV et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties? Eh ben, il y avait une page Tipeee pour cela. Il y a toujours une page Tipeee pour cela. Et je remercie d'ailleurs tous les tipeurs vraiment de me soutenir. Merci à eux. Mais en plus du Tipeee qui reste en place, hein, si vous êtes sur Tipeee, ça ne change rien. Il est en place, ça ne bougera pas. Mais en plus du Tipeee, il y a maintenant aussi un Patreon. Le Tipeee n'est plus seul, il a un camarade. Donc c'est patreon.com/la-revue-de-presse-jv, tout collé. Vous pouvez me soutenir via Patreon, comme vous pouvez me soutenir donc sur Tipeee. tipeee.com/la-revue-de-presse-jv. Vous savez, donc ça vous donne maintenant deux moyens pour me soutenir. Les contreparties sont les mêmes, les paliers sont les mêmes. Les contreparties, donc, je les rappelle, hein, c'est avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications tout au long de la semaine. Donc ça, sur la page Tipeee et sur la page Patreon, maintenant, vous avez accès à cela. C'est-à-dire qu'au fil des jours, vous pouvez voir vraiment l'émission, le chemin de fer de l'émission, le sommaire se construire avec ses modifications, etc. Vous avez donc la possibilité d'avoir accès donc, à toutes les news hein, de l'émission. Chaque mois, je fais un point sur l'audience, par exemple. Parfois, je vous fais des petits billets, etc. Donc ça, c'est que pour les tipeurs et pour les Patreons. Aussi, maintenant, désormais. Vous avez la possibilité donc de proposer des sujets pour la brochette de news, des coups de gueule, des coups de cœur, vous le savez. Et vous avez aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV ou de chez vous, tranquillement, avec votre micro, votre connexion internet. Vous pouvez participer donc à cette grande émission à mes côtés. Voilà, donc désormais, il y a le Tipeee, il y a aussi le Patreon. Donc si vous voulez me soutenir, je vous en remercie vraiment grandement. Et je fais 1000 bisous vraiment à ceux sur Tipeee et au futur sur Patreon de me soutenir car vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission c'est vraiment ce qui me donne la patate de n'avoir aucun jour de repos finalement car je fais l'émission vous le savez le week-end et certains soirs de semaine en plus de mon boulot et au-delà du type de l'aspect financier c'est vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission bah, ça me touche vraiment toujours beaucoup et cette semaine on commence avec un coup de gueule de Vanifraise qui nous dit j'ai testé pour vous la très courte démo de Shin Sakura Taizen et oui le retour de Sakura Taizen en ces temps d'anniversaire de la Saturne, nous dit-il. Eh ben, ça fait mal. Les phases de dialogue sont sympas, mais sans surprise. On déplace son personnage dans des environnements 3D soignés sans pour autant être magnifiques. Les dialogues semblent fun et la galerie de personnages complète. Bon, le problème du jeu est, comme on pouvait s'y attendre après les premières vidéos, les phases d'action-combat, c'est vraiment très moche, mais genre, vraiment, il est loin le tactical RPG qui flattait la rétine. Les ennemis apparaissent, on les cogne en frappant frénétiquement sur la touche X, et voilà. Alors c'est pas trop mal animé, c'est déjà ça. Bref, je vais l'acheter parce que je suis un gros faible, mais pfiou, j'en soupire déjà. Oui, Vanifraise ressouligne à juste titre le fait que, on en a déjà parlé dans l'émission, hein, ce nouveau Sakura Taizen opte pour des combats action pour délaisser le tactical. Et c'était assez marrant, d'ailleurs ça avait été relevé par pas mal de rédactions, le fait qu'à côté, Yakuza, toujours chez Sega, abandonnait les combats action pour le prochain épisode, hein, qui arrive très très vite, tout du moins au Japon, pour des combats RPG. C'est assez rigolo. Bibar Jack, de son côté, nous dit mon coup de cœur. Alors lui, c'est un coup de cœur, hein, Bibar Jack. C'est les 25 ans de Donkey Kong Country sur Super NES. Et même si Nintendo n'a rien fait pour fêter ça, pour moi, Donkey Kong Country est un grand jeu pour toute la prouesse technique de l'époque, pour avoir ramené ce personnage des années 80 dans les années 90 en le modernisant. Le 2 reste pour moi mon épisode préféré, comme beaucoup, hein, un excellent gameplay. Moi, je précise à nouveau que le premier Donkey Kong Country m'avait déçu à l'époque, et bah, c'est un jeu que je n'aime pas tellement, même si j'aime beaucoup ses musiques, qui sont extraordinaires. Le rendu visuel me plaît beaucoup, même si je trouve qu'il a très très mal vieilli. Et certains environnements, je suis désolé de le dire, je les trouve toujours aussi moches. D'autres que je trouve un peu plus beaux. Et je trouve son level design d'une platitude hallucinante. Mais c'est mon avis. J'ai toujours trouvé qu'il était un petit peu surcoté. Mais n'en prenez pas ombrage, c'est juste mon avis. Et je suis content pour vous si vous êtes fan absolu de Donkey Kong Country. Et c'est ton cas, Bibar Jack, qui nous dit d'ailleurs, si vous avez une Wii U, les jeux sont trouvables sur l'eShop. La Super NES Mini propose le premier volet. Vous n'avez aucune excuse, et tu as bien raison de le préciser. Vanifraise, qui nous fait son retour et qui nous dit recoup de gueule avec l'adaptation traduction de Shenmue 3 qui est vraiment très mauvaise, des non-sens en pagaille, des tentatives de rendre cool Ryo bidon, des prises de liberté ridicules. C'est noté, alors que revoilà Bibar Jack qui revient pour nous dire mon coup de gueule, c'est cette horrible plagiat pour la vidéo promotionnelle de Sony. Ah oui, alors je sais pas si vous avez vu ça tourner sur le net, hein, vous trouvez ça rapidement. En fait, une vidéo de Sony qui a piqué pas mal de séquences d'animation d'autres studios. Bibar Jack met en lien d'ailleurs le tweet de Katsuka. Allez voir, hein, le compte Twitter de Katsuka, hein, vraiment qui explique bien qu'on est carrément sur du copier-coller d'animation de Steve Universe, de l'école des Gobelins et de plein de choses. Allez voir ça, c'est assez étonnant. Et j'ai pas l'impression que ça fait plus de bruit que ça. Bref, on va finir avec Tulkas qui lui a un petit coup de cœur pour The Tourist, nous dit-il, un petit jeu qui sent le sable chaud et les vacances en compagnie de Tom Selleck. Eh oui, très chouette petit jeu, nous dit-il, une espèce de tout mini GTA like non violent avec Tom Selleck en vacances teinté de Metroidvania. Le seul défaut du jeu, c'est d'être trop court pour exploiter à plein son potentiel, mais la fin laisse clairement entendre qu'il y aura une suite, et vu celle-ci, je suis hyper curieux. De plus, le jeu est ultra choupi avec plein d'effets de particules, de lumière et le tout hyper fluide en 60 fps. Ça m'intéresse, je vais aller faire un petit tour pour voir ce jeu là et le fait qu'il soit court, ça ne me gêne pas, surtout après un énorme Death Stranding. Le jeu de la semaine, c'est Darksiders Genesis. Oui, Darksiders Genesis, le spin-off de la saga Darksiders, hein, qu'on ne présente plus l'action RPG. Alors tout d'abord, c'est quoi Darksiders Genesis? Gotoz sur Gamecult nous le rappelle dans sa grande bonté universelle et qui nous dit « Émerger des cendres de feu, Vigil Games, deux entités travaillent depuis à la renaissance du démon Darksider. Il y a eu d'abord Gunfire Games, un regroupement de vétérans de la série à qui THQ Nordic confiait il n'y a pas si longtemps le sympathique Darksiders 3. Il y a maintenant Airship Syndicate, studio monté dans la même ville, hein, donc à Austin, par Joe Madureira himself, hein, papa des 4 chevaliers. Après un écart du côté du RPG à tendance sublime avec Battle Chaser Night War, Joe Mad et sa bande sortent ces jours-ci Darksiders Genesis, un spin-off qui dévisse quelques boulons de caméra et pense l'aventure en cop pour le meilleur et pour le pire. Avant qu'on voit un petit peu ensemble l'accueil critique de ce Darksiders Genesis, je rappelle que pour l'instant il est que dispo sur PC. Les versions console, il faudra attendre 2020. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, hein, d'après cette revue de presse de notes, hein, de critiques que j'ai fait pour vous, on n'est pas dans du Diablo-like, hein, malgré la vue aérienne. Hein, la caméra qui s'est hop surélevée comme ça, c'est vrai que quand on voit des screenshots, on pourrait penser à un titre à la Diablo, mais non, ça reste un jeu d'action, hein, en vue aérienne. Et donc beaucoup de choses ont été rapportées, des critiques qui font que L'accueil, finalement, du jeu est assez, je l'utilise très souvent ce mot-là pour le jeu de la semaine, mais c'est contrasté. Oui, contrasté. On va commencer avec jeuxvideo.com, Mister Derive, hein, qui a mis 16 sur 20 et qui nous dit « Sous l'angle d'un action RPG nerveux, Darksiders Genesis permet au 4e cavalier de faire une solide entrée dans la saga. Si le titre se heurte à quelques défauts de finition lors de sa sortie, il combine avec réussite l'action frénétique propre à la licence et ses traditionnelles phases d'énigmes et de plateformes pour un résultat au final plus proche d'un Darksiders 1 que d'un Diablo. Doté d'une superbe direction artistique, la proposition d'Airship Syndicate, et qui plus est surmontée d'une cerise sous forme de mode coopération jouable en ligne ou en local à deux personnes, de quoi démultiplier le plaisir éprouvé en charclant des hordes de démons. Je rappelle que le mode coop en local, vous avez l'écran qui est splitté en deux de manière verticale. C'est quand même sympa parce que c'est pas forcément tous les jeux en ce moment qui ont un mode coop local, et ça nous rappelle voilà, les grandes heures de pas mal de consoles de jeux avant que le online vienne pointer le bout de sa truffe. ActuGaming.net met la note de B, hein, c'est Joe Jones qui nous dit « Si Darksiders Genesis promettait un rythme effréné à travers ses trailers, on ne peut s'empêcher de penser que le jeu manque d'impact pendant les premières heures. Cependant, son apparent manque de dynamisme est balayé au travers de notre progression et de notre appropriation de l'arsenal des deux cavaliers. L'expérience devient ensuite très plaisante, et malgré la ponctuation de quelques bugs de collision ou de retard dans l'affichage des sous-titres, l'intérêt du joueur sera fréquemment relancé entre chaque mission. » Gotos donc sur GameCult, lui est sévère, hein, met 5 sur 10, et nous dit « Pour sa première sur les feux de la rampe, le Guayer Discord accompagne son frère Guerre, donc ça c'est le nom des chevaliers hein, si vous ne connaissez pas la série, dans un spin-off apéro coopératif qui donne l'impression de prime abord de jouer à une version alternative du premier Darksider dont on aurait tout simplement éloigné la caméra. Avec comme star du show ce système de combat bicéphale et très complet, et ces quelques phases de puzzle bien senties qui savent faire plaisir et procurer de bonnes sensations lorsque toutes les planètes sont proprement alignées. Mais respect des aînés, charme intrinsèque et envie de bien faire ne font malheureusement pas tout, qui plus est quand les fondamentaux pêchent. Entre soucis de finition omniprésents, lisibilité de plus en plus problématique et un certain goût pour la redite, Darksiders Genesis passe malheureusement à côté de son destin. » Oui, parce que ça revient souvent, ce manque de lisibilité. Vous avez notamment pas mal d'éléments au premier plan. Hein, je vous rappelle que la caméra est aérienne et vous avez des éléments au premier plan qui viennent souvent cacher l'action, soit le personnage, soit les ennemis. Alors pour le personnage, vous avez un petit liseré lumineux en termes de contour qui fait que c'est un truc vieux comme le monde, hein. On le voit à travers les décors, mais pas les ennemis, donc ça crée pas mal de soucis. Y a un manque de précision aussi, qui est souvent relayé, notamment au niveau des sauts, parce que vous avez des sauts à faire dans le jeu, et avec cet angle de caméra aérien, c'est pas toujours évident. Et le jeu aussi a une certaine répétitivité, avec des arènes, des couloirs, des puzzles comme ça qui se succèdent, et au bout d'un moment, bon, certains trouvaient ça redondant. Quelques petites critiques étrangères. Obi Consolas en Espagne nous dit « Darksiders Genesis ressemble à un autre clone de Diablo ». Alors c'est bizarre parce que c'est exactement le contraire hein, qui est dit par beaucoup de critiques. Obi Consolas poursuit « Mais il a sa propre personnalité et est un Darksiders avec une perspective différente ». Finalement, le critique reconnaît que c'est un Darksider avec une caméra aérienne. Bon, l'honneur est sauf pour Obi Consolas. Le critique poursuit « Il est amusant, a une composante RPG et jeu de plateforme sympathique et malgré ses problèmes, c'est un superbe nouvel épisode de la saga. » IGN, lui, nous dit « Bien qu'il manque de polish, Darksiders Genesis est un spin-off exceptionnel qui est égal et parfois surpasse ses confrères de la saga principale, hein, rien que ça. » Eurogamer Italy nous dit « Darksiders Genesis a changé de style, mais le rythme et la mécanique principale sont toujours excellents et agréables. Le jeu propose des graphismes et des sons sublimes. » Enfin, Game Informer nous dit « Darksiders Genesis ne parvient pas à tirer tous les atouts de la série. Il offre une expérience coopérative, mais son design décalé et son histoire oubliable ne donnent pas satisfaction. » Donc c'est un petit peu contrasté, il y a aussi ce manque de polish qui revient très souvent, mais globalement, je pense que si vous êtes un grand fan de la série, alors moi je m'étais arrêté au 1, hein, j'ai pas eu le temps de faire le 2 ni le 3, il faut que je rattrape, hein, vraiment mon retard. Ce que j'ai compris, c'est que si vous n'êtes pas fan de la série, bon, ça peut attendre, et que si vous êtes fan, vous pouvez quand même, voilà, en tout cas jouer à cette version PC, en espérant que la version console amène un petit peu plus de polish à tout cela. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Darksiders Genesis. C'était le jeu de la semaine de la revue de presse JV. À vous les studios. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs, eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv, tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement Revue de Presse JV et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio Play Geek, hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Dahalo sur les traces des voleurs de zébus à Madagascar. J'ai trouvé cet article sur le Monde Afrique et ça parle donc d'un jeu vidéo qui s'appelle Dahalo, un jeu vidéo signé du studio Lomé, L-O-M-A-Y, un jeu dont le but est d'alerter sur un conflit qui a fait des milliers de morts tout en restituant, dans les moindres détails, les paysages de l'île, hein, donc de Madagascar. Avant qu'on s'avance plus loin, petit point culture, puisque moi-même je n'étais pas très au fait de ce que voulait signifier Dahalo, D-A-H-A-L-O, et en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur un article sur RFI Afrique, et qui nous parle donc de ce fléau. Un article d'ailleurs intitulé « Madagascar, les attaques de voleurs de zébus font 4000 morts en 5 ans ». Alors, ça nous raconte un petit peu ce qu'il se passe avec ce phénomène, mais ça nous explique aussi les origines de ce fléau, hein, qu'est le vol de zébus. RFI nous dit, donc c'est un fléau qui dure depuis des années et qui a donc déjà fait des milliers de morts. On nous rappelle que c'est une tradition villageoise, de l'ouest et du sud de Madagascar, donc le vol de zébus. Et c'est à l'origine un moyen, pour les hommes de prouver leur virilité. Mais la tradition, nous dit RFI, s'est transformée aujourd'hui en véritable trafic. Les voleurs de zébus bénéficient parfois de complices dans l'administration qui leur fournissent des faux papiers pour le bétail volé. Ça, c'est un papier qui date de 2018. Revenons sur le jeu, donc revenons sur cet article du Monde, donc qui nous parle de la personne, Mathieu Rabeadja, 30 ans, qui a participé à la Paris Games Week, qui s'est déroulée, rappelez-vous, du 30 octobre dernier au 3 novembre. Et donc son équipe a présenté le jeu Dahalo, dont la sortie est encore en cours, si je ne fais erreur, puisque je vous parlerai de la page Steam du jeu, vous pouvez déjà retrouver le jeu Dahalo sur Steam, vous pouvez l'ajouter à votre wishlist, et la date de sortie prévue est coming soon, donc pas de date ferme et définitive sur le jeu, si ce n'est que ça devrait sortir incessamment sous peu. Et donc la journaliste du Monde, Laure Verneau, nous parle donc déjà où est situé ce studio, dans une demeure traditionnelle, donc à Madagascar, et c'est là que donc se trouve le studio Lomé. Lunettes carrées, nous dit-on, et t-shirt noir, Mathieu Rabeadja, 30 ans, revient tout juste de la Paris Games Week. L'équipe, au moment du reportage, est encore en pleine bourre, dans une ambiance studieuse, nous dit-on, une quinzaine de personnes pianotent sur des claviers. Il s'agit de régler les derniers bugs avant la commercialisation. Donc Monsieur Rabeadja, fondateur de Lomé, nous dit à propos de son jeu Dahalo, je cite, « Notre but était d'alerter sur un conflit invisible mais omniprésent à Madagascar et qui a fait plus de 4000 morts en 5 ans. On aimerait aider à lui trouver une issue. » Donc la journaliste du Monde de nous rappeler qu'effectivement les Dahalo sont à l'origine une ethnie du sud de la Grande Île qui commettait des vols occasionnels de zébus. Cette pratique s'est depuis répandue et normalisée au point de devenir une source récurrente d'insécurité pour les éleveurs de la région. Mathieu Rabeadja raconte, je cite, « Nous sommes allés les rencontrer en 2018 pour les besoins de notre jeu, grâce à des Dahalo repentis. On s'est rendu compte en leur parlant que c'est à cause de la pauvreté que les pillages s'intensifient. C'est un cercle vicieux. Ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à abandonner les vols si l'État voulait bien les aider. » Les créateurs du jeu, nous indiquons, ont décidé de leur reverser 1$ par exemplaire vendu. Donc, parlons du jeu quand même. Dans ce jeu d'aventure, à la troisième personne, les joueurs suivront 3 personnages qui participeront à des affrontements avec ces bandits pour survivre dans l'hostilité de cette région de Madagascar. Pour rendre l'expérience encore plus immersive, donc le studio a recréé en 3D dans les moindres détails les paysages uniques de l'île, des forêts luxuriantes de la côte et aux paysages arides du sud près du Tuléar. Les terres rouges, les montagnes, les abris de Zébu, bref, rien n'a été laissé au hasard, nous dit la journaliste. Les joueurs pourront y rencontrer les populations locales en tenue traditionnelle, des Odi Gaizi autour du cou, vous savez, ce sont ces amulettes en corne de Zébu censées protéger des balles. L'environnement artiste Coralie Ramacavello nous explique, je cite, « C'était important pour nous d'intégrer les us et coutumes de notre pays ». Et effectivement, ils se sont attelés à cette tâche-là, avec visiblement un certain souci vraiment du détail. Dans le secteur du jeu vidéo, où l'Afrique pèse 1% du chiffre d'affaires mondial, si vous suivez l'émission, on en avait déjà parlé, effectivement, on a souvent parlé du jeu vidéo en Afrique, la démarche donc de ces créateurs se veut politique. Mathieu Rabeadja nous dit « Je joue depuis tout petit et j'ai toujours rêvé qu'un jeu vidéo représente enfin mon pays ». Alors on nous rappelle que ce n'est pas un coup d'essai pour le studio Lomé, en activité depuis fin 2014, hein, ça commence à dater, les développeurs ont sorti en 2017 l'application mobile Gascar, hein, un jeu de course de voiture en 3 dimensions qui a pour décor les quartier emblématique d'Antananarivo. Jeu disponible sur Android et iOS. Il y a eu un partenariat pour ce jeu avec l'opérateur Orange, ce qui a permis au studio d'être rémunéré sur la publicité. Mais pour Dahalo, le modèle est sensiblement différent, nous explique le patron du studio. Je le cite à nouveau, le jeu sortira d'abord mondialement sur la plateforme Steam au prix de 20$, avant de sortir plus tard en une version physique abordable pour les malgaches. Tout l'enjeu sera de l'adapter à la situation de Madagascar. Nous comptons 8000 abonnés à la fibre optique et environ autant à la DSL sur une population de 26 millions d'habitants, décrit Mami Randriamaharo, secrétaire générale de l'Internet Society Madagascar. Elle ajoute, je cite, « La plupart des gens ont accès à Internet sur leur smartphone, soit environ 9 millions de personnes, mais c'est loin de concerner tout le monde ». Effectivement, pour parachever cet article, la journaliste du Monde nous dit que la Banque mondiale estime que près de 66% de la population de la Grande Île n'a pas accès au réseau mobile. Un défi de plus, donc, hein, pour les développeurs de jeux vidéo malgaches. Ça, c'est pour l'article du Monde. Et donc, je vous parlais de la page Steam. Je l'ai devant les yeux, hein. J'ai déjà regardé les screenshots, bien sûr, avant de vous parler. Si vous entendez des petits clics-clics, c'est que là, je les regarde en même temps que j'enregistre cette émission, parce que ça me permet vraiment de me plonger dans l'ambiance. Il y a aussi un trailer. Alors, le jeu est classé PEGI 18. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. Et donc effectivement, dans ce trailer, vous pouvez revoir cet environnement de Madagascar recréé en 3D. On vous explique les enjeux. On nous rappelle bien que Dahalo donc, est un jeu d'action-aventure que le jeu porte sur des bandits malgaches voleurs de zébus présents dans le sud hein, donc de l'île, réputés pour être puissants et invincibles. Donc dans le jeu, ce que nous explique la fiche Steam, hein, vous incarnez Roy, une étudiante en médecine, et vous allez donc explorer un univers inspiré des paysages du sud de Madagascar. Au cours de votre voyage, hein, nous dit la fiche, découvrez le mode de vie du peuple de cette région, cernez les problèmes rencontrés par les paysans du sud et essayez d'apprendre les secrets des Dahalo. Faites les bons choix dans ce monde hostile, car le destin des gens innocents dépend de votre succès. Vous commencez votre aventure, nous dit toujours cette page Team, hein, dans un monde semi-ouvert. Vous progressez à votre rythme grâce aux nombreuses quêtes. Vous affrontez les Dahalo de front hein, dans des combats de fusillade où vous pouvez jouer la carte également de l'infiltration. C'est intéressant. Vous pouvez changer l'équilibre des forces sur le territoire envahi par ces bandits. En vous initiant à la culture du peuple Bara, vous négociez avec les PNJ, créez des alliances avec des soldats, hommes de pouvoir ou paysans. Chaque rencontre, chaque événement est une invitation à l'aventure. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je vois qu'il y a une démo. On peut télécharger une démo apparemment. Alors, si vous voulez découvrir donc le jeu, vous tapez Dahalo, hein, je répète, hein, D-A-H-A-L-O sur Steam, et vous pourrez télécharger la démo. Donc c'est édité chez Lomé, un jeu donc avec un propos, avec un message politique derrière, donc c'est toujours très intéressant de s'y pencher, que le résultat soit bon ou décevant à l'arrivée, c'est intéressant de suivre ce type de projet-là. Donc je vous invite à aller voir la page Steam, à vous faire votre idée, hein, par vous-même, à voir maintenant pour la suite si le jeu aura un accueil favorable, et voir quelle sera la résonance médiatique aussi. Et voilà, il est temps de nous quitter, j'espère que cette émission vous a plu. La grande revue de presse JV, hein, on parle des remakes, donc avec des tipeurs, des contributeurs, de l'amour. J'ai un peu de retard sur le montage, parce que je vous avouerai qu'au niveau boulot, en ce moment, c'est vraiment le feu. Voilà, j'ai la tête sous l'eau en permanence, c'est assez compliqué, mais je fais au mieux. J'aimerais donc remercier les contributeurs de l'émission. Neo Calimero, Malodélique, Crocodine, Pipoletsu, 722, Mopral, Trifon, Valentin, Siwi Diju, Bibarjack, hein, Electrotactics, Tophobie, Fabien, Clem, Deben, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Karan, Laure, Hiromitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, Coucou Bertrand, Cédric, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Vanifraise, X, Nili, Carnoct, Melkoc, Lutherian, Aza, Slokoanet, Evolix, Forza Pedro JP Madère et l'incontournable Monsieur A et Gontran sur Patreon. Et oui, puisque après cette liste, cette longue liste de tipeurs, et je vous remercie encore sur le Patreon, et ben Gontran est toujours le seul patron, donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez soutenir l'émission. Bref, encore mille merci à toutes et tous. Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain, comme d'habitude, même heure, même flux, même maison, même demeure. Et en attendant, je vous souhaite panache et robustesse pour la semaine. Gros béco et à tantôt. Bye bye.